France Info.
France Info.
Comme chaque dimanche, dans France Info Idée, nous revenons sur une idée, un débat qui fait l'actualité avec vous, Frédéric Martel. Bonjour.
Bonjour Victor.
Alors aujourd'hui, Frédéric, vous vous intéressez aux révolutions arabes à la veille de l'élection présidentielle. Elle a lieu demain en Égypte.
Oui, demain et mardi aura donc lieu l'élection présidentielle en Égypte. Peu de suspense en réalité avec un militaire, le maréchal Sissi, donné grand favori. Il a banni les frères musulmans, fait condamner à mort un millier d'islamistes, il a muselé la presse, au point que l'on parle de mascarade électorale et de restauration 3 ans après la révolution égyptienne marquée par la chute de Hosni Moubarak. Alors printemps arabe, révolution arabe, restauration ou rupture, on ne cesse de commenter ces événements. On cherche à leur donner un nom, un sens ou à les interpréter alors même que l'histoire continue de se faire.
Oui, la question c'est justement de savoir ce qu'on appelle une révolution. La question d'ailleurs n'est pas nouvelle.
Oui, il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de révolution au sein singulier ou pluriel, qu'il a fallu un siècle à la France pour achever la sienne. Les historiens ne racontent plus guère aujourd'hui 1789 en s'arrêtant à la chute de Robespierre. Ils vont jusqu'à l'avènement de Bonaparte, la révolution de 1830 qui fait suite à une restauration, la révolution de 1848 ou même, comme l'historien François Furet, jusqu'en 1890, c'est-à-dire l'instauration durable de la République. 3 ans pour juger les révolutions arabes, c'est donc un peu court. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays arabes les débats suscités comme partout, par toute révolution. L'interprétation sociale, disons marxiste, qui place au centre la lutte des classes sociales face à une interprétation libérale qui privilégie le symbolique, le culturel et l'idée d'une dynamique politique propre, disons autonome. Le débat sur l'ordre versus le désordre, la question de la volonté humaine face à la révolution qui serait manipulée ou confisquée. Quand elle n'est pas voulue par Dieu, hein, les catholiques révolutionnaires le disaient déjà en 1789 et les frères musulmans l'ont répété en Égypte.
Alors le terme lui est bien connu, hein, les révolutions arabes, il faut bien quand même retenir que chaque révolution est différente.
Oui, on doit parler du printemps arabe, si on peut dire au pluriel. Les révolutions arabes sont moins un événement situé dans le temps qu'une promesse dans la durée. Ce sont des événements humains qui débordent les hommes. C'est un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes à Sidi Bouzid, dans le sud de la Tunisie, Mohamed Bouazizi, qui en s'immolant par le feu, parce que la police l'a empêché de travailler, de gagner modestement sa vie, c'est lui qui a déclenché en décembre 2010, d'abord en Tunisie, puis un peu partout dans le monde arabe, l'une des mobilisations les plus extraordinaires de ces dernières années. La dimension sociale est donc essentielle, mais d'autres lectures sont possibles. Une lecture islamiste, en Égypte comme en Tunisie, c'est-à-dire l'affrontement entre un nationalisme arabe et l'islamisme tout court. Parfois, on en fait d'ailleurs une lecture entre des progressistes et des conservateurs. Il y a aussi une lecture, je dirais, de révolution de palais, un dictateur remplacé par un maréchal. Maréchal, c'est la version complotiste aujourd'hui en Égypte. Ou alors, encore, une lecture démographique avec le basculement de la jeunesse. C'est la thèse du livre récent « Jeunesse d'Arabe » publié à La Découverte. On sait qu'environ 60% de la population au Moyen-Orient et au Maghreb a moins de 30 ans.
Et puis, il y a aussi cette révolution dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, cette révolution sur Internet, c'est la fameuse révolution Facebook.
Oui, alors là, c'est la singularité un peu du printemps arabe, révolution Internet, révolution Facebook. On se souvient du rôle que ça a pu jouer, influence déterminante. En Tunisie, ce fut le blog collectif Nawat. En Égypte, le groupe Facebook de Wael Gonin, en hommage à un jeune Égyptien assassiné par la police. Ou encore en 2012, le rôle des cyberactivistes et les pétitions online du groupe Tamarod au Caire. On a donc parlé de révolution des réseaux sociaux, révolution Twitter, ce qui est évidemment abusif, comme l'a reconnu le journaliste Michael Gladwell. Twitter n'existait pas en Iran en 2009 et guère plus en Tunisie ou en Égypte à l'hiver 2010-2011. Mais néanmoins, les vidéos sur YouTube et Facebook ont bien été un catalyseur et les SMS ont été décisifs. Les technologies ont accéléré une dynamique qui n'a pas été créée par elles. Reste que si les réseaux sociaux ont prouvé leur efficacité pour organiser la mobilisation des foules et pour faire, disons, la révolution, il leur reste à prouver qu'ils peuvent aider à construire un programme politique et à permettre l'instauration l'institutionnalisation de la démocratie. En résumé, les révolutions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Il leur arrive de détrôner des rois et parfois d'en rétablir. Elles sont source de progrès, hein, la révolution américaine ou encore 1789, et parfois de régression, comme la révolution russe ou la révolution islamiste iranienne de 1979. L'Égypte va-t-elle renouer avec la dictature de Moubarak ? Et avec elle, le maréchal Sissi fera-t-il une restauration ? C'est possible. On peut imaginer que le parti islamiste Ennahda gagnera la prochaine élection présidentielle ou peut-être qu'une nouvelle révolte en Palestine aura lieu, alors que le pape a parlé, on l'a dit tout à l'heure, de situations inacceptables ce matin. L'esprit de la révolution peut-il renaître ? Nous verrons. Restent des critères indéniables, ceux de la liberté d'expression, ceux de la liberté politique, avec des élections justes, et celui de l'instauration d'un état de droit. Sur tous ces critères, on en est encore loin dans l'Égypte du maréchal Sissi.
France Info Idée, votre analyse, Frédéric Martel, à retrouver sur franceinfo.fr.